Seigneur, encore merci pour cette occasion de pouvoir nous rassembler autour de ta parole, Seigneur. Et ce soir, nous te disons merci, Seigneur, du fond du cœur, pour le corps de Christ, pour ce que tu nous permets de vivre, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Et je te prie, Seigneur, que tu nous encourages chacun dans nos pensées, dans nos questionnements, dans nos réflexions, dans nos craintes, dans notre vie, dans notre quotidien, que tu nous éclaires par ta parole encore ce soir, s'il te plaît. Et je te demande que tu nous aides dans notre marche avec toi, à te faire confiance, Seigneur, à placer en toi notre confiance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et par rapport à la foi, on va continuer sur la foi encore ce soir. Et on a parlé d'un sujet à Genève sur l'inquiétude. Vous savez, Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas pour votre vie. D'accord ? Et je trouvais que c'était intéressant de lier le verset 25, donc c'est en Matthieu 6, 25, avec le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On ne peut pas faire les deux ensemble. D'accord ? Et de la même manière, par rapport à l'inquiétude, c'est exactement pareil entre l'inquiétude et la foi. Soit on s'inquiète et on pense avec nous-mêmes, on raisonne, on calcule, on essaye de trouver des solutions, on essaye de se sortir d'affaires, ou soit on marche par la foi. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Soit on est... Parce que quand on s'inquiète, on arrête de faire confiance à Dieu. Alors, soyons honnêtes, on s'inquiète tous. On est tous face à des situations, on est tous face à des circonstances, on est tous face à des défis. Et quelquefois, c'est sur peut-être notre identité profonde, notre passé. On a été peut-être blessé, victime. On a tous des luttes qui sont profondes. D'autres, c'est quelquefois juste par rapport à des circonstances qui arrivent de la vie et qui nous bousculent un petit peu. Quelquefois, c'est juste, peut-être le retard d'une personne. Alors aujourd'hui, avant, quand quelqu'un n'arrivait pas, on n'avait pas les téléphones, donc on pouvait s'inquiéter. Maintenant, on téléphone. Mais quand personne ne répond, alors on s'inquiète, parce que ce n'est pas possible qu'il ne puisse pas répondre. D'accord ? Mais on continue de s'inquiéter quand même. Bon, on est comme ça. Mais je trouvais intéressante cette idée, puisqu'on parle de la foi. En fait, la foi, c'est une attitude vis-à-vis de Dieu. C'est que, oui, il y a des situations qui me dépassent. Oui, je suis limité. Oui, je suis qu'un homme. Je ne suis pas Dieu. Hein, et en fait, quand on s'inquiète, on se prend pour Dieu. Genèse 3, 4, vous serez comme Dieu. Et on pense que nous, voilà, on est... Surtout quand on est adulte. Peut-être quand on est enfant, on est un peu plus... où on n'est pas vraiment en responsabilité. On se décharge. Et sur les parents, on n'est pas responsable. Puis quand on devient adulte, maintenant, on est responsable. Donc il faut tout gérer. Oui, bien sûr, quand le fait de marcher par la foi, ce n'est pas d'être passif, d'être paresseux, de tout laisser à volo, de ne pas prendre de décision. Au contraire, c'est de marcher avec Dieu pour prendre les bonnes décisions, pas simplement émotionnelles ou naturelles ou charnelles ou en réaction, mais des émotions des décisions spirituelles, parce que justement, au lieu de laisser nos pensées être prises par l'inquiétude et l'anxiété et la crainte, eh bien, on pense avec Dieu. On pense avec, pas simplement mes provisions, mais aussi la provision de Dieu, puisqu'il est dans l'équation. S'inquiéter, c'est enlever Dieu de l'équation. Donc, voilà, c'était une petite introduction sur ce qu'on veut partager ce soir encore sur la foi. Parce que Dieu nous invite à, on parlait de ça, le juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je vais... Donc, on va développer, on va réfléchir, on va donner quelques éléments encore ce soir pour nourrir cette réflexion, pour vous encourager. Chacun, c'est votre vie. Et comment vous voulez vivre votre vie ? Soit vous prenez les choses en main et vous risquez souvent de vous inquiéter. Et la tragédie, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme ça, puisqu'ils ont rejeté Dieu. Et vous savez, le résultat des courses, c'est que être inquiet en première réaction, c'est humain. Mais continuer de s'inquiéter et nourrir cette inquiétude, ça ramène les gens dans l'angoisse, dans l'anxiété, et ça les rend malades. Et les gens sont malades aujourd'hui. ils sont anxieux, ils sont craintifs, ils ont peur de tout. Parce que tu peux t'inquiéter pour tout, hein. Quand tu commences à t'inquiéter, je veux dire, tu peux te poser des questions sur tout, t'inquiéter sur tout. Et donc, ce n'est pas vraiment la vie à laquelle Dieu nous a appelés. La vie à laquelle Dieu nous a appelés, c'est une vie de foi, une vie de repos, une vie... et on va en parler, et ça, ce que ça produit de vivre par la foi. Mais pour l'instant, on va rester quand même sur cette question, l'objet de notre foi. En qui croyons-nous ? Est-ce que je crois en l'homme, en moi, en philosophie, en les hommes politiques ? Aujourd'hui, on prépare des élections, donc c'est... Voilà. Personnellement, je pense que beaucoup de gens ne croient plus dans les politiques. C'est grave. Parce que c'est quand même ce qui nous gouverne. Mais les gens ne croient plus en rien, même en ce qui est visible. Ils ne croient plus en un Dieu invisible. Et ils ne croient plus non plus, même dans les gens. Ils n'ont plus confiance dans les gens. On reste concentré. Donc nous, on a choisi de croire en Jésus-Christ. On a choisi de croire en son évangile. On a choisi de croire dans ses enseignements. Notre foi, elle a un objet. Et l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a enseigné. C'est ce qu'il nous a révélé. Hein. Donc il est venu dans ce monde pour nous sauver. Ce qui est beau aussi, c'est de voir que si aujourd'hui on a la foi et on peut avoir la foi en Jésus, c'est parce que Jésus a fait le premier pas. C'est lui qui est venu, c'est lui qui est descendu, c'est lui qui est venu se révéler, c'est lui qui est venu parler, c'est lui qui est venu accomplir l'œuvre, c'est lui qui est venu préparer le terrain, et c'est lui encore qui prépare nos cœurs pour qu'à un moment donné, le cœur puisse s'ouvrir et croire. Et croire, on disait, c'est un don de Dieu, hein, et Dieu donne à chacun une mesure de foi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mesure de foi qu'il nous a donnée ? On parlait ça la dernière fois. En quoi, en qui on la place ? Les gens d'aujourd'hui la placent en eux-mêmes. On est dans ce monde individualiste, d'accord ? Et les gens ne sont pas plus heureux. Je dirais qu'eux-mêmes, ils sont inquiets. Donc c'est lui qui nous prépare, c'est lui qui nous attire, qui attire notre attention. Il fait une œuvre de pré-salut. Vous savez qu'avant de vous convertir, il y a eu un travail de Dieu dans votre vie. Il y a un travail de Dieu dans votre vie, souvent à travers les épreuves, les souffrances, le brisement. Et puis, à un moment donné, on est prêt, on écoute et on entend. On entend et on écoute et on reçoit et on répond. Et c'est ce qu'on a fait. On a validé le message, on a cru et on est né de nouveau. Donc ce choix de croire en Jésus-Christ et qui maintenant cette invitation à vivre par la foi. Et l'idée naturelle, c'est que l'idée du monde, l'idée naturelle, mondaine de ce que c'est la foi, c'est que ça y est, pour le français moyen, c'est tu rentres dans les ordres, tu rentres dans une vie d'abnégation, de sérieux, de rituels, de choses à faire, de choses pas rigolotes, quoi. T'as fini ta vie, quoi. C'est comme, voilà, tu rentres au couvent, tu rentres au monastère, et c'est fini pour toi. Alors que la foi chrétienne, c'est pas du tout ça. C'est découvrir la vie, au contraire. C'est découvrir autre chose. Parce qu'en fait, la foi nous introduit dans une nouvelle vie. La foi nous introduit dans un nouveau royaume. La foi nous introduit dans de nouvelles relations. En fait, par la foi, on vit différemment que ce qu'on vivait avant. Tout est nouveau. Nous sommes devenus nouveaux. Les gens, le genre de relations qui s'instaurent sont totalement différentes parce qu'elles n'ont plus le même fondement. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a une restauration d'une relation essentielle. C'est entre nous et notre Créateur. Et ça ouvre les portes pour fonder d'autres relations les uns avec les autres qui sont importantes, le corps de Christ, les amitiés qui sont maintenant sur un fondement sain, pas sur une relation qui va remplir le vide que seul le Créateur peut remplir. Vous comprenez ? Donc, avant, on vivait pour nous, pour notre bonheur, notre confort, notre sécurité, notre plaisir, nos désirs, Et maintenant, on vit pour quelqu'un d'autre. On vit parce qu'on a rencontré le Seigneur. On vit parce qu'on a envie de sa présence. On vit parce qu'on a goûté combien sa présence, combien c'est bon de marcher avec le Seigneur. D'accord ? Et on a sa grâce. On vit pour Christ, par sa grâce, avec son amour, couvert par sa miséricorde et soutenu par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour marcher par la foi. Dieu a pourvu pour tout, n'est-ce pas ? Et quelquefois, on est plus ou moins conscient. Et en fait, quand on est en communion avec Dieu, quand on a le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous illumine, qui parle à nos cœurs, qui répond à nos questions, qui apaise les craintes et qui nous donne sa paix, on perçoit que l'appel que Dieu a sur nos vies est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux, l'appel que Dieu a sur notre vie. Et c'est ce que Paul désire, d'ailleurs, pour les Éphésiens, hein, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance et la gloire qui s'attache à votre appel. Et c'est une prière qu'il a, et c'est une prière qu'on devrait avoir. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse réaliser, parce que je pense à nos jeunes gens encore une fois, et même les moins jeunes, parce qu'à tout âge, pourquoi je suis là? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que la vie? On ne peut pas s'inquiéter pour sa vie, mais c'est quoi ma vie? C'est juste survivre, ou c'est la vie a un sens, la vie a un but, la vie a un projet pour moi? C'est quoi ma vie? Je vais où avec ma vie? Et nous pouvons témoigner que de faire confiance à Dieu, c'est de choisir le bon chemin. Un chemin qui nous décevra pas. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, parce que quand tu dis, si je marche avec Dieu, forcément, je vais être béni, je n'aurai pas d'épreuves, je ne serai jamais malade, je n'aurai pas de problème de chômage. Je veux dire, mon couple marchera à merveille, mes enfants, ils seront droits, parfaits, enfin, tout ira bien, quoi. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On a les mêmes problèmes que tout le monde, sauf que nous, on a Dieu comme secours. Et on a un appel sur notre vie. Un appel qui est de connaître Dieu, de marcher avec Dieu et de pouvoir partager ce Dieu. Donc, vivre par la foi aussi, c'est d'être rempli du soutien du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, Éphésiens 5, 18. De quoi on se remplit? On peut s'enivrer de beaucoup de choses. Le verset nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, voilà, de quoi est-ce que je me remplis? Est-ce que je suis rempli de crainte, de soucis, d'inquiétude, ou est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit, de la paix, de la communion avec Dieu, d'une vision sur un avenir qui est pas juste terrestre, qu'est-ce qui va m'arriver demain, sur un avenir qui est éternel. Un avenir qui est éternel. Voilà. Et puis, évidemment, vivre par la foi, c'est adopter une conduite aussi, une conduite de vie. Et on y reviendra un petit peu, mais très souvent, les gens pensent que, voilà, quand on vit par la foi, on veut marcher dans la lumière, on veut marcher dans la sainteté, on veut marcher dans la justice, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la loyauté, n'est-ce pas ? Dans toutes ces caractéristiques du croyant, du chrétien, de Jésus-Christ, tout simplement. On se dit, mais c'est pas possible. J'y arriverai jamais. Et en réalité, c'est vrai. Et trop souvent, l'homme naturel voit tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut plus faire et tout ce qu'on ne doit plus faire. Et tout ce qu'il faut faire qu'on n'arrive pas à faire. Et en fait, pour être spirituel, c'est pas d'arrêter de faire les mauvaises choses. C'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans les nouvelles choses. Et les anciennes choses, on verra qu'elles n'ont plus d'intérêt. Quand ton cœur est rempli de joie, de paix, d'amour, tu n'as plus besoin de courir après les autres choses. Et petit à petit, vous verrez, ne vous occupez pas. Occupez-vous de marcher par le Saint-Esprit, c'est Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas arrêter de marcher dans la chair et peut-être vous allez arriver à marcher par l'Esprit. C'était le cours de Pasteur Michel, enfin un des points sur le cours de Pasteur Michel, c'était intéressant. Parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à maîtriser les désirs de la chair. Jamais. Et la vie chrétienne ne peut pas dire, maintenant je maîtrise la chair. Non, maintenant je choisis d'être rempli du Saint-Esprit. Et de vivre dans la lumière, avec le Seigneur, en communion avec lui. Et là, je vis d'autres choses. Ouais, on a expérimenté ce week-end. tout simplement. Et on l'expérimente quand on se retrouve, quand on se rassemble, quand on vit des choses ensemble. Donc, la vie par la foi, ce n'est pas une vie austère, c'est une vie paisible, c'est une vie fructueuse, c'est une vie joyeuse, avec des relations saines, selon l'amour divin. C'est une vie de fraîcheur, c'est une vie de simplicité. Hein. C'est une vie d'abondance, on parlait de ça la dernière fois, Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, moi je suis venu pour vous donner, pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film, comment ça s'appelle, avec Danny Boone, Radin. Vous n'avez jamais vu ce film? Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un homme qui est radin. Vous en connaissez des radins, hein, des picassiettes, des gens qui sont toujours en train d'essayer de prendre, de calculer, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent profiter des gens sans jamais rien eux avancer. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu radin. Il donne, mais avec une largesse qu'on peut même pas imaginer. Vraiment. Et là, c'est ce qu'on a vécu ce week-end. On a juste été aimés, mais de manière, comment dire, par des attentions, par des actes, par un accueil, par... ils savaient pas, ils se sont coupés en quatre pour nous. Je me dis, mais qui en est pour recevoir autant de d'amour, autant de voilà. Donc, et Dieu sait ça. Et j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est ça. C'est pas d'être radin. C'est de savoir qu'on a un Dieu qui est généreux et on donne. Et on donne et on aura en surabondance. Ne vous inquiétez pas. Hein, on n'est plus dans le calcul, je te donne parce que tu vas me rendre, je te prête parce que j'aurai un retour en intérêt. Non, c'est une vie par la puissance du Saint-Esprit, dans l'obéissance à la parole. Et on trouve notre joie. Vous savez où est-ce qu'on trouve notre joie en tant que chrétien? Où est-ce que Dieu trouve sa joie? C'est dans le fait de donner. Donner son temps, donner sa présence, donner son secours, donner sa patience, donner sa vie. Notre joie maintenant, c'est ça. C'est de donner, c'est de servir. Et parce qu'on a l'exemple, parce qu'on a le service, parce qu'on est au bénéfice de ça et on se rend compte de la bénédiction que ça représente. Donc, et même, j'aimerais vous dire, en tant que chrétien, c'est pas de la fausse modestie, comprenez-moi bien, mais on trouve notre joie même dans les tâches les plus humbles. Parce que c'est en fait, Jésus lui-même s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Je veux dire, il n'y avait pas de tâche plus humble que celle-là, n'est-ce pas ? Mais c'est quoi? C'est l'amour qui motive. C'est la joie dans le cœur. Notre identité n'est pas dans ce que nous faisons. Notre identité, elle est déjà en Jésus-Christ. C'est pas ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est... Voilà, s'ils font des tâches humbles, ça veut dire qu'ils sont nuls, qu'ils ont raté leur vie. C'est des pecnos, quoi. Non. Nous, ça ne nous gêne pas de faire des tâches humbles. Même c'est notre joie, c'est notre plaisir. On a trouvé une famille, on a trouvé un sens, on a trouvé... C'est ça, vivre par la foi. On a trouvé des objectifs nouveaux, on a des amis, on a des relations édifiantes. On a un avenir assuré et on a un Dieu qui est disponible. Bah, c'est intéressant de vivre par la foi, finalement. C'est pas si austère que ça. Quelquefois, il faut un peu de temps pour et être brisé aussi, pour réaliser la richesse de la maison de Dieu. Parce que quelquefois, on regarde le corps de Christ et puis on se dit, ouais, mais il n'y a que des bancals, là. Il n'y a que des malades. Il n'y a que des vieux. Si tu regardes naturellement, tu te dis, mais... Et après, une fois qu'on a compris qu'on fait partie de ces bancals, on se dit, mais franchement, c'est pas si mal que ça. D'avoir une place parmi tous ces bancals. D'avoir une place en particulier, moi aussi. Et de voir que ben, je suis quand même accepté, que je suis aimé, que Dieu est là. Donc c'est vrai que la famille est imparfaite. Nous sommes imparfaits. Mais c'est quand même la place que Dieu a choisie pour chacun d'entre nous. En attendant qu'on soit dans sa gloire, et là, il n'y aura plus de problème. Ce qui nous a attirés, c'est peut-être c'est la vie de Jésus, n'est-ce pas ? C'est son exemple, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa patience, c'est sa douceur, c'est sa gentillesse. Et ça nous a convaincus, en fait. Ça nous a convaincus de la qualité de cette vie à laquelle il nous appelle, cette vie de foi. Et sur le fait que bon, c'est pas un mirage qu'on espère. Vous savez, beaucoup de philosophies ou d'idéologues, ils ont un idéal. On voudrait que ce soit comme ça. D'accord, c'est un bel idéal, mais c'est loin de la réalité. Alors que notre Jésus, il n'est pas loin de la réalité. Il est la vérité. N'est-ce pas ? Et on n'est pas en train de se faire, un beau film chacun. Ah oui, ça serait bien si ça pouvait être comme ça. C'est la vérité. C'est la réalité. Et ce n'est pas inaccessible. Par la foi, c'est possible. Donc, un point important, c'est que c'est vrai que cette vie-là, en fait, elle n'a rien pour plaire à la chair. C'est pas une vie de paresse, d'oisiveté, de recherche de plaisir de soi, de satisfaction de nos convoitises. C'est tout l'opposé, en fait. C'est tout l'opposé. 1 Pierre 1,14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Alors évidemment, le standard, il est très haut. En fait, il est inatteignable. Et cette sainteté, dans notre marche de tous les jours, on ne l'atteint pas. Cette sainteté, nous l'avons dans notre position, nous l'avons reçue parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. On est les saints de Christ. Vous savez, quand Paul écrit aux différentes églises, il dit aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à... Hein, et c'est qui ces gens-là ? C'est ceux qui sont avec une auréole comme dans les peintures qu'on voit dans l'église catholique et qui marchent au-dessus des autres. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont une grâce particulière, avec un appel particulier, avec un ministère particulier, mais un saint, c'est quelqu'un qui a donné, c'est un enfant de Dieu. Alors, est-ce qu'il marche toujours ? Il peut trébucher, mais en tout cas, il est appelé à ça. C'est-à-dire que marcher par la foi, c'est pas continuer à vivre comme on vivait avant. C'est pas continuer à vivre, c'est pas vivre pour juste satisfaire sa chair. D'accord ? On a autre chose maintenant. On a autre chose devant nous. On a Christ, on a la parole, on a le Saint-Esprit. On a d'autres objectifs qui sont pas juste mon intérêt à moi personnel, égoïste. On a, en tant que membre du corps de Christ, on est une pierre vivante et on est appelé à nous édifier. Donc on a un objectif, c'est d'édifier le corps de Christ et puis de rassembler un maximum de gens, d'inviter un maximum d'autres, de brebis perdues à trouver la bergerie. Tout simplement. Alors, cette vie à laquelle Dieu nous invite par la foi, c'est une vie de notre âge, de notre monde, en fait. C'est vrai. Mais c'est une vie verrée, une vie possible, et une vie qui nous conduit vers un destin glorieux. Alors qu'une vie naturelle, charnelle, elle nous amène juste à la bassesse et à la... Comment on dit ? Le cœur de l'homme est vil. Donc ce monde qui suit juste ses passions, il est en train de s'auto-détruire. Il est en train de s'auto-détruire. Et il n'est pas satisfait, en plus. Donc, que l'on ait des attentes, que l'on ait des désirs, que l'on ait des... Oui, mais tout ça, on va, par la foi, apprendre à mettre Dieu à la bonne place et à pouvoir vivre notre vie ici-bas avec... autre chose que simplement d'être poussé par les émotions, les passions et les désirs et les convoitises. On a un autre objectif que ça. C'est pas juste la vie qui me pousse, mais c'est Jésus-Christ qui me remplit. N'est-ce pas ? Et donc, un élément important, qui me semble très important dans cette vie de foi, de comprendre le contraste, c'est qu'aujourd'hui, les gens font tout dans ce monde, et dans sa philosophie, dans son idéologie, l'idée... c'est que la bonne place, c'est d'être servi. C'est d'utiliser les autres pour nous servir, pour notre intérêt, pour notre plaisir, pour notre avantage. C'est tout le contraire, la vie par la foi. Une vie de foi avec le Seigneur, c'est une vie au service des autres. et bien sûr, d'abord au service de Dieu, mais c'est le service. Et je crois que c'est important que dans nos vies, peu importe la place qu'on a dans l'Église, l'âge qu'on a dans l'Église, mais que ce soit notre style de vie, d'être au service des uns des autres, d'être à l'écoute des uns des autres, d'être dans l'attention des uns des autres. On n'y arrive pas toujours. Quelquefois, on est préoccupé. Quelquefois, on a des saisons, tout ça. Mais je veux nous encourager à ça. Servir Dieu et servir notre prochain, en fait, c'est aimer Dieu et c'est aimer notre prochain. Et c'est le message de Jésus. Ah. Et donc, oh oui, moi je t'aime. Ben alors, serre-moi. Coupe-toi en quatre. Et pas juste avec des jolis mots. Hein. C'est vrai que les jolis mots, ça fait des émotions, mais non. Jésus ne nous a pas parlé avec des jolis mots, il nous a parlé avec des mots qu'il a remplis de sa propre vie, de son propre sang. Voilà, voilà. C'est des mots qui ont du poids. D'accord ? C'est des mots qui ont été testés, qui ont été éprouvés. Vous savez quoi ? Il est dit qu'il a appris lui-même l'obéissance pour les choses qu'il a souffert. Même le Fils, il a appris l'obéissance de la foi. Même le Fils, il a appris l'obéissance de la foi. Dieu, c'est un serviteur. D'accord ? Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui donne. Et donner, c'est servir. Et il dira, vous savez, après avoir lavé les pieds de ses disciples, vous savez ce qu'il va dire ? Si vous voulez être vraiment heureux, si vous voulez vraiment être vraiment heureux, il faut déjà avoir compris ces choses et puis les pratiquer. Découvrir que c'est la vie de servir les autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez, je pense à la famille Adam et Gilles en ce moment, avec le quatrième qui vient d'arriver, quand tu as une famille comme ça, et que quand il n'y a qu'un seul enfant, il n'y a pas besoin de partager ses jouets. Quand il y en a deux, on peut partager. Quand il y en a trois, quand il y en a quatre, il faut apprendre à partager. Et ça s'apprend. Hein ? C'est pas tout de suite, oh ben tiens, je te donne ma poupée. Hein ? Je ne sais pas si tes filles ont fait ça, Aurélie. Ou s'ils se sont bagarrés pour le jouet, les garçons pour la petite voiture, ou le cow-boy, ou j'en sais rien. Ou le petit jouet, vous savez, qu'on a dans les œufs Kinder Surprise, là. D'accord ? Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça s'apprend de partager. C'est pas naturel. C'est pour ça que ce monde ne sait pas. Mais Jésus nous apprend. Il nous apprend qu'il y a une joie, il y a une vie, une vie par la foi. Le projet, et je terminerai, parce que c'est l'heure, et on va faire un dernier chant. Tu veux reprendre un chant de la louange, tu en as un autre sur ton cœur. Le projet divin, vous savez ce que c'est? C'est de ramener un maximum de personnes à Christ. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est le salut de l'humanité. Et j'aimerais vous laisser ces deux versets. On reviendra prochainement, peut-être dessus. Dans Romains chapitre 1, verset 5. On va lire un des versets d'introduction du livre de Romains et de conclusion du livre de Romains. Et voici ce que Paul dit. Il dit, « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Quel est le projet de Dieu? Est-ce que tous les païens vont répondre à cette invitation? Non. Mais c'est le projet de Dieu d'inviter tous les païens, tous les hommes sur cette terre, à l'obéissance de la foi. À découvrir que vivre par la foi, se soumettre. Et on verra ce mot, l'obéissance, ou pakouo, ou pakoué, si c'est le nom ou si c'est le verbe. Et il conclut son épître, Romains chapitre 16, verset 25, je lis, « À celui qui peut affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ, Amen. » Afin que quoi? Tout ça, afin que quoi? Afin qu'on plie le genou de bon Jésus-Christ. Et qu'on soit dans la seule et unique position qui nous permet de rentrer dans un avenir glorieux, c'est d'être serviteur de Jésus-Christ, d'être un enfant de Dieu, d'être à notre place, d'être sous son autorité, d'être à sa suite, de désirer suivre son exemple par la foi. Et j'aimerais vous dire, Dieu sait qu'on aura besoin de grâce. D'accord ? Et il ne nous demande pas de ne jamais échouer. Et ce qu'il nous dit, c'est, ça veut dire, oh, ça paraît trop compliqué, donc je n'essaye même pas. C'est, il nous dit, rentrez dans ce chemin de l'obéissance de la foi. Apprenez à me connaître. Apprenez à me faire confiance. Apprenez à me suivre. Apprenez à renoncer à vous-même et à vous mettre au service des uns des autres. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi, oh, je crois en Jésus, alléluia, tout est beau, tout est gentil. Non. On va le voir. Il y a une doctrine, il y a des enseignements, il y a un chemin à suivre. Mais c'est une personne d'abord. C'est la révélation d'une personne. C'est la compréhension de cette nouvelle vie du Saint-Esprit qui est là qu'on... Le Saint-Esprit est difficile. Hein, expliquer le Saint-Esprit. Mais pourtant, il est là. Et c'est grâce à lui que cette vie est possible. C'est grâce à lui. Donc, Seigneur, merci de nous aider à découvrir ce chemin de la foi, à continuer, à marcher, à découvrir cette vie avec toi, cette joie qui vient dans des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, on n'aurait pas imaginé, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut trouver notre joie en servant les autres, en donnant nos vies, en perdant nos droits ? Seigneur, c'est possible. C'est une joie qui vient de toi, c'est une joie qui vient par le Saint-Esprit. C'est une joie qui est le résultat de l'obéissance de la foi. Merci Seigneur. Merci de nous apprendre à comprendre ces mots, ce vocabulaire, et de pouvoir le pratiquer de manière concrète dans nos vies, dans les défis qui sont les nôtres au quotidien, de penser avec toi et de t'obéir, Seigneur, par la foi, et de voir que chaque fois que nous te faisons confiance, ben nous trouvons la vie. Chaque fois que nous acceptons de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes, par obéissance, nous trouvons la vie, nous trouvons ta présence. Tu es là et tu nous attends, Seigneur. Merci pour ces rencontres prévues, préparées. Aide-nous à ne pas passer à côté, au nom de Jésus-Christ. Amen.